Aurélien Scholl, les orateurs de la dernière heure. Je lis dans le récit des préparatifs de l'exécution du meurtrier Albert que sa seule préoccupation paraissait être de ne pouvoir parler sur l'échafaud. On lui fit observer qu'il était impossible de le lui permettre. C'est une chose singulière que ce besoin de communiquer à d'autres les impressions qu'on ressent. Si l'on parcourt le calendrier de Newgate, on verra que 90 condamnés sur 100 adressent, avant de subir leur supplice, un speech complet à leurs compatriotes. Ce n'est pas seulement un droit qu'ils exercent, c'est une sorte de devoir qu'ils remplissent. En Angleterre, dit M. Adolphe John, ce qu'on appelle la loi commune, loi non écrite, se compose en grande partie de maximes et de coutumes qui existent depuis si longtemps que, pour nous servir d'impression légale, la mémoire de l'homme n'a rien de contraire à s'y opposer. Un précédent a la même autorité qu'un statut, un songe, un usage, vaut une loi. L'habitude prise depuis les temps les plus reculés par les condamnés à mort de faire un discours public sur l'échafaud constitua donc au profit de leur successeur un droit incontesté. Quand le colonel Turner, célèbre par la quantité de vols qu'il avait commis, monta sur l'échafaud, il appela le bourreau. « Mes amis, lui dit-il, doivent se partager mes vêtements. Voilà 50 shillings, puis 2 shillings, 6 deniers de pourboire en shillings pour les dirigeants qui assisteront à la remise de mon corps et à mes habits à une femme nommée Madame Smith. » Se levant alors debout sur la charrette qu'il avait amené, il s'exprima en ces termes. « Sir Richard Ford et vous, monsieur, l'autre shérif, et vous aussi, gentlemen, je vais payer la dette que je dois comme un droit de la nature. » Et cet exorde terminé, le colonel Turner déclare que son fils s'en sent innocent. Il prie, parle de son père, qui est un ministre estimé, et de sa femme, dont la famille est la plus respectable. Puis il fait un long récit de sa vie entière et termine ainsi « Messieurs les shérifs, êtes-vous satisfait? Désirez-vous que j'entre dans de plus longs détails? » Le shérif assure qu'il s'en satisfait, s'il l'est lui-même. Le colonel Turner répond alors à diverses questions qu'on lui a adressées le matin même, soit de vive voix, soit par des lettres. L'aumônier de Newgate l'interrompt alors pour lui demander s'il a entendu parler d'une pierre fausse remise à la comtesse de Devonshire à la place d'un diamant véritable. Turner répond qu'il n'est pour rien dans cette escroquerie. « Maintenant, répondit-il, je vais faire connaître mes opinions religieuses. » Et il apprend à ceux qui l'écoutent qu'il n'a jamais vu un homme garder son chapeau dans l'église sans en être indigné. qu'il a beaucoup aimé les plaisirs, mais qu'il n'est jamais enivré que dans son enfance. L'un des shérifs impatientés s'écrie « Si je pensais que votre grâce est arrivée tôt ou tard, je me consolerais de perdre ainsi mon temps, mais franchement, je n'ai aucune espérance, aucune de sursis ou de pardon. Si vous nous faites quelque illusion de ce genre, vous avez tort. Et vous feriez bien mieux de finir votre impertinence. Oh, mais je n'attends aucun pardon, répond Turner. Mais vous me parlez d'un ton bien peu convenable. Enfin, puisque tel est votre désir, je me tais. Présentez, je vous prie, mes salutations au Lord Mayor, à tous les gentlemen et pères, leur famille. Je désire seulement savoir si je resterai pendu toute la journée. Oh non, colonel, on coupera la corde dès que vous êtes mort. Je puis y compter, n'est-ce pas? Oh non, vous ne resterez pendu qu'une demi-heure. C'est bien. Le bourreau se mit à l'attacher à la potence. Et quoi? S'écria Turner. Voulez-vous m'étrangler? Donnez-moi un peu plus de corde. Ah, ça, mon garçon, mais d'où sortez-vous? Savez-vous pas faire un nœud? À ce moment, apercevant une jeune et jolie femme, il lui envoya un baiser en disant « Votre serviteur, madame !» Le capuchon ayant été baissé sur ses yeux, Turner fut lancé dans l'éternité. De tous les peuples de l'Europe, le peuple anglais est le plus curieux à observer. En Angleterre, une conversation est un phénomène fort rare. On ne sait pas que John Bull soit muet, mais il ne cause pas. Il n'aime que le speech. Sa bouche est comme le cratère d'un volcan. Elle reste longtemps fermée, mais quand elle s'ouvre, gare à l'éruption. Tous les condamnés à mort, politiques, religieux, assassins, faussaires ou voleurs, disputent toujours quelques heures au bourreau pour prononcer un dernier speech. C'est à peine si le shérif se permet de faire quelques observations. Dans ce cas, il n'ordonne pas, il supplie. Un individu nommé Colosse parlait depuis très longtemps. Le magistrat l'interrompt. Tout ce que vous dites est très bien et très convenable, mais je dois vous faire observer que vous vous répétez. Un autre de vos amis qui va être exécuté après vous doit avoir aussi le temps de parler. Il serait peu délicat de votre part d'empiéter sur son droit. Par conséquent, je vous prie de conclure. John Carey parla plus de 5 heures sur l'échafaud. Thomas Scott, à qui l'on ôta la parole, protesta en disant « Oh, c'est une triste et mauvaise cause que celle qui ne peut pas supporter les paroles d'un mourant. » Et dans plusieurs exécutions politiques, les rois d'Angleterre firent couvrir les paroles des condamnés d'un tel vacarme de trompettes et de tambours que personne n'en put entendre un mot. « Mes amis, disait George Murray, exécuté pour meurtre, vous êtes assemblés pour voir quoi? Un homme faire le grand saut. Regardez, vous me verrez marcher d'un pas avec autant de courage que juste. Que direz-vous de moi ? Que j'ai tué un autre homme ? Eh bien, Marlborough en a tué des milliers, lui, Alexandre des millions, et beaucoup d'autres souverains et généraux qui les ont imités sont fameux dans l'histoire. Tandis que je vais être pendu. Le duc de Hamilton, invité à faire son discours sur l'échafaud, déclare désolé de n'avoir rien préparé. « Je vais improviser, dit-il. On voudrait bien m'excuser si mon discours n'est pas aussi clair, aussi complet que je l'aurais voulu. » Un Français, Frédéric Barbe, exécuté en 1811, prie le shérif d'être son interprète parce qu'il ne sait pas l'anglais. Christopher Love commença en ces termes. « Messieurs, je vais diviser mon discours en trois parties. » Et il tint parole. Jenny Selfers, accusé du meurtre de Sir Thomas Webbury, s'assied sur un échelon pour haranguer la foule. Mais il ne se trouve pas bien. Il redescend en demandant au bourreau d'incliner l'échelle dans une autre inclinaison. On lui obéit, il remonte et commence son discours. Walter Raleigh, apercevant plusieurs lords à la fenêtre d'une maison voisine, leur dit « J'ai eu la fièvre ces jours passés et ma voix est faible. Cependant, je parlerai aussi haut que je pourrai afin que vous puissiez entendre. Oh, ne vous fatiguez pas, dit un des nobles, dit un des lords. Nous allons descendre afin d'être plus près de vous. Attendez-nous un instant. Le condamné les remercia vivement de leur politesse. La liberté de la défense devait rendre inutiles les discours de la dernière heure. Les consciences des juges se rendirent plus en encan. Les souverains, leurs ministres, apprirent à respecter les décisions du jury. Les avocats obtinrent des acquittements nombreux, qui devinrent en politique des succès de parti. L'illustre défenseur du doyen de Saint-Arnaud, Skin, alla jusqu'à s'écrier « Si mon client est coupable, je veux être considéré comme son complice. Je partage toutes ses opinions et je m'engage à le publier partout où mes paroles et mon exemple pourront exercer une influence. »